L'Afrique en jeu, Silver-Henri Cissé.
Cela garantit qu'une société peut tirer parti de tous ses talents, de l'énergie et des compétences de tout son peuple. Et si vous en doutez, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Parce que tous ces mecs ne ressemblent pas à des Gaulois à mes yeux. Mais ils sont français.
Même masquée par une traduction française, cette voix est reconnaissable parmi toutes. Barack Obama saluait à l'été 2018 l'équipe de France de football, championne du monde, lors d'un discours donné à Johannesburg à l'occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Dans ce discours devenu célèbre, il vantait la diversité de l'équipe de France qui, à ses yeux, était l'incarnation de la vision défendue par Madiba, par le combattant de l'apartheid. La conviction du président Obama interroge. Elle questionne les sentiments qui habitent les athlètes de l'équipe de France et originaires de notre pays. Effectivement, ils ont le cœur métis, des racines multiples, mais ont-ils une identité unique? Nous tenterons de vous donner des réponses avec les situations très différentes de trois sportifs qui portent le maillot de l'équipe de France en ayant l'Afrique au cœur. Parmi eux, une femme dont nous découvrirons le destin qui l'ancre définitivement au continent africain. Une photo, une histoire avec l'historien Ivan Issekine pour les premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965 qui n'étaient pas que du sport. L'Afrique en jeu, J-34, c'est maintenant. Souleymane Sissoko, un grand merci de nous avoir rejoints dans l'Afrique en jeu.
Merci à vous.
Souleymane Sissoko, vous êtes un boxeur français, médaillé de bronze à Rio, aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Rio, vous étiez le capitaine de l'équipe de France de boxe amateur. Que représentait le capitanat de l'équipe de France pour vous?
Un leadership, motiver l'équipe, aller de l'avant, avoir toujours un discours positif. J'ai toujours eu ce côté leadership et je pense que ce qui a amené le staff à me nommer capitaine de cette belle équipe de France.
Que pensez-vous du double regard sur la spécificité française dont parlait d'ailleurs Barack Obama, qui n'est pas propre au football, mais également à la boxe et à tous les sports français, et vous êtes bien placé pour le démontrer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette spécificité?
Je pense que c'est une richesse plus qu'autre chose. On a un sport qui rassemble différentes personnes, différents milieux sociaux, différentes couleurs, différentes religions. Et je pense que c'est une force aujourd'hui. Il faut le prendre comme une force et ne pas être dans la division, etc.
Votre histoire, Souleymane, elle s'écrit en bleu, blanc, rouge, mais elle s'écrit aussi en vert, jaune, rouge, qui sont les couleurs du Sénégal. Alors, comment vous vivez votre double appartenance?
Pour moi, c'est une richesse, c'est une force. Moi, aujourd'hui, je puise beaucoup du Sénégal. Je puise aussi beaucoup de la France, qui m'a beaucoup apporté. J'ai aussi énormément de soutien au Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que cette double culture fait de moi l'homme épanoui que je suis et l'homme qui est aussi bien en France qu'au Sénégal.
Vous avez grandi au Sénégal, vous avez rejoint vos parents. Très souvent, ce genre de situation est décrite comme difficile et misérabiliste. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Qui sont vos parents et que vous ont-ils donné?
Mes parents, je pourrais en dire tellement. En fait, la plus grande richesse, en tout cas, qu'ils m'ont donnée, c'est, je pense, leur sagesse, l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et puis, je pense que l'éducation aussi, je l'ai plus de eux, leur comportement, le regard vers autrui, donc l'aide. Je sais que mes parents aident beaucoup, sont très accueillants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien le côté giving back, le côté donner en retour que j'ai aujourd'hui, pour lequel vraiment je m'investis beaucoup. Et mes parents sont nés au Sénégal. Mon père travaille en banque à la BHS. À la Banque de l'Habitat du Sénégal. Il a été dérogé pour venir en France. Donc, il était conseiller financier. Puis derrière, ma mère l'a rejoint parce que je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Ma mère l'a rejoint. Et puis derrière, on a vécu à Villers-le-Bel pour 2-3 ans avant d'arriver dans le 19e arrondissement de Paris.
Vous affichez une élégance naturelle qui est reconnue par tout le monde. Une élégance naturelle, intellectuelle, morale. Comment l'avez-vous acquise? Il y a bien sûr vos parents, mais je suppose qu'il y a également le sport qui vous a aidé pour avoir cette élégance naturelle, intellectuelle et morale.
Oui, je pense aussi. En fait, ce qui a été bien dans mon parcours, c'est que j'ai eu le double projet, qui est un projet aussi sportif, mais aussi un projet professionnel. Donc mon père était très à cheval sur les études. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi, comme de gagner des médailles et des ceintures. Donc ça, je pense que ça a joué beaucoup. J'ai envie de dire aussi les voyages. Les voyages, c'est quelque chose qui ouvre énormément. De rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux sociaux, d'autres cultures, etc. Ça ouvre énormément. C'est un mélange de tout ça. Et puis la curiosité aussi, je dirais, la lecture et autres, je pense que ça aide pas mal. Et puis voilà, d'avoir le regard tourné vers autrui, savoir apprendre d'autrui, être ouvert, je pense que ça aide beaucoup à ça.
Votre élégance s'accompagne aussi d'un engagement. Vous êtes très engagé dans la vie de la cité, dans votre ville de Paris. Peut-être aussi au Sénégal, êtes-vous engagé ?
Oui, effectivement, très engagé aussi au Sénégal. On aide plusieurs structures là-bas, notamment on fait du soutien scolaire pour les enfants d'un quartier populaire qui s'appelle la Médina, un quartier populaire de Dakar. On leur donne pas mal de matériel scolaire. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de parents qui déscolarisaient leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas les moyens de leur acheter des fournitures scolaires. Donc, ça, c'est désolant. Et puis voilà, on s'est voulu vraiment ambassadeur de bonne cause pour les aider et les soutenir surtout.
Parlons de votre actualité. Vous êtes challenger numéro 1, WBC des Walters. Ce sont les moins de 67 kilos. Quel chemin vous reste-t-il à parcourir pour devenir champion du monde de cette fédération ?
Ça peut vraiment aller très très vite. Actuellement, je suis le numéro 1 dans ce classement WBC. Bien sûr, on ne compte pas le champion. Donc là, l'idée, c'est de faire soit une finale mondiale, donc face au numéro 2 ou au numéro 3 ou au numéro 4. En tout cas, un boxeur dans le top 10. Puis derrière, d'accéder à la ceinture, donc d'être challenger officiel pour la ceinture. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario serait peut-être de rencontrer directement le champion en titre, qui est un boxeur que je connais très bien, Mario Barrios, avec qui je me suis entraîné plus de 5 ans. Donc voilà, pour une ceinture, on pourra peut-être s'affronter.
Parfois, vous savez, il faut un logiciel hein, pour comprendre les subtilités des quatre fédérations de boxe. Hein. WBA, WBC, IBF et WBO. Est-ce qu'il est possible pour vous d'envisager le titre dans toutes ces fédérations et que vous soyez un jour champion du monde unifié ?
C'est vraiment l'objectif. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une première ceinture, la défendre et puis derrière, de réunifier les ceintures parce que je peux être champion du monde et je peux avoir trois autres champions du monde de ma catégorie. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, l'idée, c'est de faire ça et puis derrière, arrêter ce beau sport parce que je pense qu'il y a aussi une vie après la boxe. Et puis voilà, je me concentre aussi sur ça parce que voilà, il y a une vie familiale, il y a énormément de choses qui peuvent se passer après ce sport. Donc je prépare aussi ma reconversion qui est très importante, sans pour autant là, bien sûr, être très 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 focus sur mes objectifs.
Est-ce qu'on peut envisager un jour de vous voir revertir les couleurs du Sénégal comme coach ou comme dirigeant à la fin de votre carrière sportive ?
Aider la Fédé, je le fais déjà. Après, en tant que coach dirigeant, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup investi au Sénégal. J'ai pas mal de projets, notamment avec les lutteurs qui viennent souvent en Europe ou aux États-Unis pour se préparer. Donc, je suis en contact avec pas mal de lutteurs sénégalais avec lesquels je bosse. Et on va essayer d'ouvrir un centre là-bas sur place. Et puis voilà, au-delà de ça, c'est qu'il y a énormément de projets qui vont arriver en Afrique. Et moi, ce qui me tient à cœur vraiment, c'est de pouvoir un jour boxer en Afrique et notamment au Sénégal avant la fin de ma carrière.
Une athlète, en tout cas, a franchi le pas. Après des années en équipe de France et des participations aux Jeux Olympiques, elle a décidé de représenter son pays d'origine et d'enfiler les couleurs du pays de ses parents. C'est un autre destin que nous allons retrouver d'ici quelques instants. Merci Souleymane Souseko d'être revenu aujourd'hui dans l'Afrique en jeu. Et tout de suite, nous allons retrouver une femme, un destin.
Merci à vous.
Une femme, un destin.
Reina Flor Okori Makedenge, merci d'être avec nous dans l'Afrique en jeu.
Je suis vraiment super heureuse d'être ici avec vous.
Vous étiez une spécialiste du 100 mètres haies, championne du monde junior, championne de France à de multiples reprises. Vous avez vécu 4 Olympiades, hein. Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 avec l'équipe de France et Rio, les Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec la Guinée équatoriale, votre terre d'origine. Alors comment avez-vous pu concourir dans deux pays différents pour deux pays différents ?
Bah écoutez, c'est une formidable aventure que j'ai eu la chance de vivre. Et bien sûr, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Ça, c'était un projet que j'avais mûri depuis de longues années. Et il se trouve que pour pouvoir représenter un autre pays en athlétisme, on doit faire un transfert d'allégeance. Ça veut dire qu'on ne renonce pas à sa nationalité. Mais pour représenter un autre pays, il faut ne pas courir pour son pays pendant 2 ans. Donc, j'ai profité un petit peu d'une saison un peu creuse pour faire ce transfert d'allégeance. Et c'est ce qui m'a permis de représenter la Guinée équatoriale après toutes ces années avec l'équipe de France.
Nous allons nous arrêter sur un moment qui a été très fort pour vous et qui a été une véritable révélation. Que s'est-il passé dans la chambre d'appel de la 6e série du 100 mètres haies aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 5 minutes avant de rentrer sur la piste, il va se passer quelque chose d'incroyable pour vous.
Oui, c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup d'années pour rendre compte que en fait, c'était une fin heureuse. C'était un happy end pour moi, plutôt que désastreuse. parce que j'ai dû renoncer en fait à courir la série donc du 100 mètres haies. J'avais été porte-drapeau la veille, j'avais fait le défilé avec tous les athlètes, donc j'étais vraiment très engagée. Je revenais aussi de grossesse, je m'étais bien entraînée avec Patricia Gérard pour retrouver la forme et pour pouvoir courir et vraiment représenter la Guinée équatoriale. Et 24 heures avant la course, je me suis blessée et c'était une blessure vraiment bizarre parce que d'après les échographies, c'était juste une petite inflammation, donc il n'y avait pas de contrainte pour courir. Mais physiquement, ce n'était pas du tout ça. On pense souvent qu'avec l'adrénaline, on peut sortir des ressources incroyables. Donc, j'étais prête à y aller et je suis allée dans la chambre d'appel. Mais en même temps, j'avais très peur parce que je me disais, si je n'y arrive pas, je vais être la risée de l'équipe de France et de la risée de mon pays, la Guinée équatoriale. Donc, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et puis, en dernier recours, j'ai eu cet appel avec ma psy à l'époque, c'était Myriam Selmi. Et elle m'a donné ces deux conseils qui me suivent toujours aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et puis, de penser à mon petit bébé qui avait 9 mois.
Et là, vous avez renoncé à concourir aux Jeux Olympiques. Et pour vous, ce renoncement, ça a correspondu au besoin de consolider votre rapport à l'Afrique, c'est-à-dire?
Le rapport à l'Afrique et aussi le rapport avec la France. En grandissant en France, j'ai petit à petit renoué avec mon héritage culturel et familial dont je ne connaissais pas l'origine. Et c'est quelque chose que j'invite aussi beaucoup à mes camarades africains descendants de vraiment profiter s'ils ont leurs parents à côté ou leurs oncles, leurs tantes, même leurs grands-parents. Vraiment de leur poser leurs questions, en fait, qui nous sommes, d'où venons-nous, qui sont nos gens, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, parce que ça correspond aussi à une grande part de notre identité, en fait, toute cette histoire. Et si on n'est pas conscient de ça, c'est comme si on coupe une partie de nous. Et moi, je n'avais pas conscience de l'histoire de mes ancêtres, et c'est mes parents qui, petit à petit, nous divulguaient des informations comme ça. Je ne savais pas, par exemple, que le dernier roi d'Endoué, c'était un descendant direct de ma famille. Je ne savais pas que mon grand-père était président de l'UNESCO jusqu'à ce qu'il décède. Je ne savais pas qu'il était même le professeur particulier du président Théodore Obiang-Nguema. Je ne savais pas du tout, en fait, pourquoi mes parents avaient quitté la Guinée équatoriale pour venir en France. Je n'avais absolument pas conscience du tout qu'en fait, j'étais passée de la vie dans la nature, avec un environnement très serein, au ghetto, au quartier, où c'était une autre ambiance, où il fallait absolument se battre pour sortir du lot. Mais en fait, au final, les deux expériences, c'était un petit peu la même chose, en fait. C'était du côté de l'Afrique, en fait, on a fui, on a dû courir, en fait. Déjà là, moi, j'étais déjà programmée dans cette notion, si tu veux faire partie du club, t'as intérêt à te battre. Et c'est le discours aussi qu'on utilise dans le sport, quoi. No pain, no gain, etc. Faut y arriver. Mais en fait, j'avais pas fait le lien, en fait, de ce message profond, comment il résonnait en moi quand je courais. Puis ensuite, quand j'étais avec la Guinée équatoriale et que je me suis blessée, et que j'avais peur d'échouer parce que j'avais peur justement de ne pas sauver l'honneur de mon pays, puisque c'est pour ça que j'avais été recrutée. Et puis là, mon corps ne pouvait pas. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller me suicider là en première ligne comme un tirailleur sénégalais pour la prospérité? Non. Et c'est le fait d'avoir mis au monde un enfant et que j'ai eu l'occasion en fait de me délivrer, en fait, de me dire, il faut vraiment savoir pourquoi tu cours. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas courir que tu ne représentes pas ton pays. On ne peut pas être, pardon l'expression, le cul entre deux chaises, quoi. On doit vraiment avoir une bonne gouvernance de notre souveraineté en tant qu'Africain descendant, en tant que Français. Et ça passe par une connaissance, en fait, je pense, de toute son histoire.
Finalement, cette séquence olympique en 2016, ça a été un bon ou un mauvais souvenir?
C'est comme un accouchement, en fait. Hein. Le processus est très, je dirais pas douloureux, mais il y a du suspense. Et puis, c'est pour accoucher de quelque chose d'extrêmement positif, en fait. Aujourd'hui, je suis solidement ancrée dans ma double culture. J'ai conscience de mon histoire et conscience des enjeux de la France-Afrique, justement, compte tenu de cette connaissance de mon histoire. Et ce qui me permet vraiment aujourd'hui d'être pleinement ancrée dans mon profil aussi d'olympienne. Athlète olympienne, c'est aussi... en dehors des enjeux politiques, justement, pouvoir valoriser cette universalité de la beauté du sport, peu importe d'où l'on vient, le sport, c'est beau. C'est ça qui est le plus important, je pense.
Merci d'être venu aujourd'hui dans l'Afrique en jeu et de nous avoir présenté votre parcours et ce destin que je trouve personnellement formidable. Merci, Reina Flore.
Merci beaucoup, merci.
Vous écoutez l'Afrique en jeu sur RFI avec Sylvère-Henri Cissé.
Philippe, Joe, Petit-Jean, tout d'abord, je vais commencer à vous féliciter en vous disant bravo.
Merci beaucoup.
Bravo, puisque vous êtes le préparateur physique du club de l'AS Saint-Étienne. et que ce club est monté en Ligue 1 après un match de barrage étouffant contre Metz. Et on vous le doit un tout petit peu quand même, non ?
Ouais, un tout petit peu, mais c'est surtout grâce au staff et grâce aux joueurs. Donc on se félicite quand même du bon résultat et de la saison accomplie.
Vous êtes le préparateur physique du club de l'AS Saint-Étienne, mais votre particularité, c'est que vous tentez de vous qualifier pour les Jeux Olympiques en athlétisme dans la discipline du 110 mètres haies. Pour le Togo, vous êtes le métis d'un père français et d'une mère togolaise. Comment est née l'idée de courir pour le Togo ?
En fait, j'ai toujours eu cette double nationalité, cette double culture. Donc, j'ai toujours eu envie de participer aux plus grandes compétitions. Et j'ai eu cette opportunité avec le Togo depuis maintenant 2 ans. Où mes performances ont augmenté et puis j'ai toujours voulu rendre honneur et rendre hommage à ma famille avec qui on est très soudés. Et du coup, bah, j'ai eu cette opportunité et du coup, ça continue de me motiver pour pouvoir participer à la plus grosse compétition qui existe, à savoir les Jeux Olympiques.
Mais comment vous vous entraînez en marge de l'équipe de Saint-Étienne ? Comment vous vous préparez pour cette échéance des Jeux Olympiques qui passe par la qualification, bien sûr ?
Bah, au final, c'est un planning très chargé en soi parce que je travaille dès le matin. Donc jusqu'à, on va dire, 16h, où je m'occupe de la préparation des joueurs, soit en salle de muscu ou bien sur le terrain. Et après, bah, j'ai mon programme qui est donné par mon coach, Zoran Donovodenovic. Et tous les soirs, bah, je suis à l'entraînement, que ce soit là-bas au centre d'entraînement ou bien du côté de Décines sur mon stade pour faire les séances techniques avec mon coach. C'est un planning très chargé, mais on fait le travail, on travaille en amont pour que ce soit bien efficace et qu'on puisse parvenir à cette qualification.
Pourquoi vous n'avez pas tenté l'équipe de France, le pays où vous avez grandi ?
C'est une question de choix et d'opportunité. C'est-à-dire que j'ai eu plus d'opportunités du côté du Togo. Mais en soi, c'est un choix dans le sens où ma sœur a déjà représenté le Togo lors des Jeux Olympiques d'hiver, donc Mathilde Amivi-Petitjean, en ski de fond. Et elle l'a fait à 2 reprises et en fait, elle m'a montré la voie, on va dire. Ça veut dire que je sais que j'aurai plus de reconnaissance et plus de, j'ai envie de dire, amener un plus gros message et peut-être faire passer, servir de modèle pour les futurs jeunes Togolais qui ont envie de participer à cette discipline. Mais ça amène un peu plus de lumière pour ce pays et moi, ça a toujours été une fierté de parler du Togo. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix.
On croise les doigts pour que vous qualifiez à Paris 2024 pour le Togo. Ce serait très bien pour le sport togolais, aussi pour votre famille, puisque votre sœur est déjà une Olympienne. Vous n'avez pas participé aux championnats africains, pour quelle raison ?
On a fait un choix avec mon entraîneur pour participer aux Jeux Olympiques. Et en fait, par rapport au système de qualification, donc au ranking, il fallait faire un certain nombre de compétitions. Et malheureusement, bah, c'est un sacrifice, mais je ne participe pas parce qu'il faut que je fasse plusieurs courses pour atteindre ce quota. Et au final, le fait de participer à ce championnat me réduisait un peu mon chemin pour arriver aux Jeux Olympiques. Donc c'est un sacrifice pour cette année, mais... ça ne le sera pas pour les prochaines années, je l'espère.
Philippe Diot-Petitjean, que représente le fait de porter le maillot du Togo pour vous ?
C'est une fierté. Ça permet d'amener un peu de reconnaissance et de mettre à peu près au même niveau que les autres athlètes. Ça veut dire qu'une fois qu'on porte le maillot d'un pays, on a plus de confiance. Mais aussi, ça nous met sur un pied d'égalité lors des compétitions avec les autres athlètes de niveau international. Ou du moins avant le départ, mais au moins ça permet de nous mettre sur ce pied d'égalité et ça permet aussi de servir de modèle en fait et d'être aussi reconnaissant envers toutes les personnes et tout le pays qui fait partie de ma double culture depuis que je suis né.
Et que vous disent les joueurs de l'AS Saint-Étienne qui sont au courant de votre projet ?
Ça amène un peu d'émulation. Chacun un petit mot, que ce soit des encouragements, des fois aussi c'est quelques blagues ou alors dès qu'ils arrivent à me battre sur certains exercices. Mais en soi, c'est une émulation de la part des joueurs, du staff. Parce que c'est un sport, donc c'est de la compétition et ils font partie du projet à chaque fois à me soutenir. Donc j'ai plusieurs joueurs qui sont venus me voir à des compétitions, donc ça amène beaucoup de motivation et puis ça nous pousse à chaque fois au quotidien.
Il est une femme que nous aimons beaucoup dans l'Afrique en jeu pour l'avoir reçue dans Une femme, un destin. Il s'agit de Falilatou Tchanil Salifou, qui est la présidente de la Fédération Togolaise d'Athlétisme. Elle a été très importante dans votre choix de rejoindre le Togo. Pourquoi ?
Elle a permis de remettre la lumière sur le Togo. J'ai envie de dire, on a malheureusement peu d'occasions de se mettre en avant. Et par son prix l'année dernière de par World Athletics, elle a permis de mettre en avant le Togo. Donc comme les autres athlètes l'ont déjà fait, que ce soit Naomi Akakpo, que ce soit Benjamin Boupetti aussi, mais en kayak avec sa médaille olympique, ça permet aussi de participer à ce projet et de remettre vraiment le Togo sur la carte.
Nous croisons les doigts pour que vous puissiez vous qualifier à Paris 2024 et nous pourrons ainsi suivre vos exploits sur le tartan. Merci d'être venu aujourd'hui dans l'Afrique en jeu et bonne chance.
Merci à vous. Show you know, see me up.
La musique du Nigeria toujours aussi réjouissante, Troublemaker par Rema. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des jeux. Aujourd'hui, Brazzaville 1965, les premiers jeux africains.
Je déclare l'ouverture des premiers jeux africains à Brazzaville. Au nom de tous les athlètes, je jure que nous nous présentons aux premiers Jeux africains en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos pays.
Il est vraiment émouvant d'entendre la déclaration d'ouverture des premiers Jeux africains le 18 juillet 1965 par Alphonse Massamba Déba, président du Congo Brazzaville de l'époque. Une voix solennelle suivie de la prestation de serment de l'athlète congolais Henri Elende. Cette émotion, je vous invite à la partager avec la photo que nous vous proposons sur l'application Pure Radio de RFI à la page L'Afrique en jeu. Oui, il est touchant et impressionnant de voir 2900 athlètes et 29 nations dans un alignement parfait. Même si la photo est délavée, nous distinguons parfaitement les délégations sur la pelouse et les publics amassés dans le stade. Nous proposons aussi de voir sur l'application l'affiche de cet événement. Elle comporte trois anneaux aux couleurs vertes, rouges et jaunes qui représentent les couleurs des drapeaux de tous les pays d'Afrique et des sportifs qui proviennent des quatre coins du continent. Yvan Issekine, vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Yaoundé. Vous êtes enseignant et chercheur au Cameroun dans de nombreux centres de recherche universitaires. Au-delà du cadre du sport, les premiers Jeux africains sont importants. Dans quelle mesure, Yvan ?
Les premiers Jeux africains sont importants parce qu'ils permettent de construire un espace d'autonomie où les pays africains vont s'affirmer au niveau de la scène internationale face à un système olympique qui était plus ou moins hostile à leurs différentes revendications liées à la lutte contre le colonialisme, à la lutte contre l'apartheid. Donc c'est un espace très important dans la structuration non seulement des identités collectives des États africains, notamment liés au panafricanisme, mais également dans l'identité nationale de chaque pays.
C'est en 1962, Yvan, sous la présidence de l'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo-Brazzaville, que la conférence des ministres des sports des États africains confie au Congo-Brazzaville l'organisation des premiers Jeux africains, donc auront lieu en 1965. Mais son successeur, le président Alphonse Massamba Déba, que nous avons entendu, lui n'était pas vraiment emballé. Pourquoi il n'était pas emballé par ces Jeux africains ?
La défiance du président Massamba Déba vis-à-vis des Jeux africains est légitime. parce qu'elle intervient dans un contexte où il y a des fortes rivalités entre le Comité international olympique et une instance qui était pilotée par les Français et les Soviétiques et qui servait à accompagner les États africains dans la préparation au système olympique. Et également d'autres enjeux liés au rapprochement du Congo-Brazzaville des puissances soviétiques, qui étaient plus ou moins mal perçues par le CIO qui était dirigé à cette époque par un ressortissant américain et qui avait des postures qui étaient plus ou moins proches du bloc occidental. Et quand on ajoute des éléments liés à la géopolitique interne du pays, notamment la défiance entre les populations du pôle et celle de Brazzaville qui était plus proche du pouvoir congolais, on peut comprendre que le chef de l'État congolais percevait l'organisation des Jeux comme une forme de risque et même une menace à la stabilité de son pays.
Un homme a une action déterminante pour l'organisation des Jeux, il s'agit de Jean-Claude Ganga. Qui était-il ?
Jean-Paul Ganga est l'homme que l'État congolais a délégué pour pouvoir organiser les Jeux africains. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, qui va finir par être coopté au CIO, c'est qu'il a réussi à construire une politique de la politisme pour pouvoir contourner les différents freins mis en place par le CIO. Il va d'abord décider d'effectuer une forme de tournée sur tout le continent pour recueillir les différentes sensibilités vis-à-vis des Jeux africains. Et il se rend compte que le véritable problème est lié à la participation des puissances qui sont plus ou moins liées au colonialisme. C'est ainsi qu'il décide, dans une gestion assez habile, de pouvoir donner une vision tiers-mondiste et anti-impérialiste aux Jeux africains, tout en conservant une forme de partenariat technique avec la France, qui était plus ou moins mal perçue par certains pays anglophones et lusophones qui percevaient cela comme une forme de réminiscence de la question coloniale. Et cette manœuvre a plus ou moins bien fonctionné parce que les Jeux africains de 1965 ont été courus.
Les Jeux africains ont été un instrument politique. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Les Jeux africains continuent à être un instrument politique vu qu'ils font l'objet d'une bagarre entre l'Association africaine des comités nationaux olympiques et l'Union africaine. Ici, c'est plus l'affaiblissement du caractère collectif du sport power des Jeux africains qui est quelque part ébranlé par le fait que l'organisation de cette compétition tend à renforcer plus ou moins les sport power nationaux. Et un autre élément qui renforce la politisation, on peut dire l'alter-politisation de ce cadre, ce sont les luttes autour de la mobilisation de cette arène-là pour obtenir des qualifications des athlètes africains pour les Jeux olympiques. Actuellement, il y a une polémique entre l'Association africaine des comités nationaux et olympiques et l'Union africaine sur cette question. Et c'est une posture qui va plus ou moins dans l'affaiblissement du sport power africain dans un contexte où il y a une forme de retour, de mobilisation des arènes sportives pour pouvoir faire avancer un certain nombre de causes dans le monde à la lumière de la crise russo-ukrainienne.
Merci Yvan. Je rappelle que l'on peut vous lire dans de nombreuses contributions sur le sport et la politique et que vous êtes docteur en sciences politiques à l'université de Yaoundé. Un grand merci.
Merci Sylvain Henry.
L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonici à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Mario Benedetti. Dans la vie, il faut éviter trois figures géométriques, les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. Rendez-vous même heure, même endroit la semaine prochaine. Également en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.